Chapitre 8. La voleuse de vie. Le monde ne te fera pas de cadeaux, crois-moi. Si tu veux avoir une vie, vole-la. Lou Andreas Salomé. Une onde de chaleur parcourut mon corps et balaya mon visage. Je me sentais bien, au chaud, protégé. Je résistais un moment à l'envie d'ouvrir les yeux pour prolonger ce sommeil amniotique dans mon cocon ouaté. Puis il me sembla entendre une chanson au loin, le refrain d'un tube reggae dont les notes se mêlaient à une odeur venue de l'enfance, celle des pancakes à la banane et des pommes caramélisées. Un soleil insolent déversait sa lumière dans toute la pièce. Ma migraine s'était évaporée. La main devant les yeux pour ne pas être ébloui, je tournai la tête vers la terrasse. La musique provenait de mon petit poste de radio posé sur une desserte en teck poli. Il y avait du mouvement autour de la table. Les pans vaporeux d'une robe, fendus jusqu'en haut d'une cuisse, flottaient en contre-jour. Je me redressai pour m'asseoir contre le dossier du canapé. Je connaissais cette robe, rose chair, avec ses fines bretelles. Je connaissais ce corps que le jeu des transparences laissait deviner. Aurore, murmurai-je. Mais la silhouette diaphane et vaporeuse s'avança jusqu'à cacher le soleil et... Non, ce n'était pas Aurore. C'était l'autre cinglé de cette nuit qui se prenait pour un personnage de roman. Je sortis d'un bond de la couette avant d'y revenir illico presto en me rendant compte que j'étais nu comme un ver. Cette barge m'a déshabillé. Je cherchais des yeux mes vêtements ou même un simple caleçon, mais rien n'était à portée de main. Ça ne va pas se passer comme ça. J'empoignai le couvre-lit pour l'enrouler autour de ma taille avant de me précipiter sur la terrasse. Le vent avait chassé les nuages. Le ciel était dégagé et brillait d'un bleu magnétique. Dans sa robe d'été, le clone de Billy s'activait autour de la table comme une abeille voleterait entre les rayons du soleil. « Qu'est-ce que vous foutez encore ici ?» fulminai-je. « C'est une drôle de façon de me remercier d'avoir préparé le petit déjeuner. » En plus des petites crêpes, elle avait disposé deux verres de jus de pamplemousse et fait du café. Et puis, de quel droit m'avez-vous déshabillé?
Ben, chacun son tour. Vous ne vous êtes pas gêné hier soir pour me détailler des pieds à la tête.
Mais vous êtes chez moi!
Allez, vous n'allez pas faire toute une histoire parce que j'ai aperçu Popol.
Popol?
Ben oui, votre petit Jésus, votre petite bébête.
Mon petit Jésus, ma petite bébête? Pensais-je en resserrant la couette autour de ma taille.
Notez bien le côté affectueux de l'adjectif « petit », car de ce côté-là, vous êtes plutôt bien.
Bon, assez plaisanté, la coupai-je. Et puis, si vous croyez m'avoir par la flatterie?
Elle me tendit une tasse de café.
Ça vous arrive de parler sans hurler?
Et de quel droit avez-vous enfilé cette robe?
Vous ne trouvez pas qu'elle me va bien? Elle appartenait à votre ancienne petite amie, n'est-ce pas? Je ne vous imagine pas en train de vous travestir.
Je me laissais tomber sur une chaise et me frotter les yeux pour reprendre mes esprits. Cette nuit, j'avais naïvement espéré que cette fille aurait pu n'être qu'une hallucination, mais ce n'était malheureusement pas le cas. C'était une femme, une vraie, doublée d'une emmerdeuse de première classe.
Buvez votre café avant qu'il ne refroidisse.
Je n'en veux pas, merci.
Vous avez une mine de déterré et vous ne voulez pas de café?
Je ne veux pas de votre café, c'est différent.
Pourquoi?
Parce que je ne sais pas ce que vous avez foutu dans ma tasse.
Vous ne croyez tout de même pas que je cherche à vous empoisonner?
Je connais les givrés dans votre genre.
Les givrés dans mon genre?
Ouais, les nymphos ayant la conviction délirante d'être aimées par l'acteur ou l'écrivain qu'elles admirent.
Moi, une nymphomane? Là, mon vieux, vous prenez vraiment vos désirs pour la réalité. Et si vous croyez que je vous admire, vous vous mettez complètement le doigt dans l'œil.
Je me massai les tempes en regardant le soleil triompher derrière la ligne d'horizon. Mes cervicales étaient douloureuses et mon mal de crâne était revenu d'un seul coup, choisissant cette fois de torturer l'arrière de ma tête. « Bon, on va arrêter cette plaisanterie. Vous allez rentrer chez vous sans me forcer à appeler la police, d'accord ?»«
Écoutez, je comprends que vous refusiez d'admettre la vérité, mais... »«
Mais ?»«
Je suis vraiment Billy Donnelly. Je suis vraiment un personnage de roman et croyez que cela me terrifie autant que vous. »
Atterré, je finis par prendre une gorgée de café, puis... Après une dernière hésitation, je terminai la tasse. Le breuvage était peut-être empoisonné, mais apparemment le poison n'était pas effet immédiat. Toutefois, je ne baissai pas ma garde. Enfant, je me souvenais d'avoir vu une émission de télévision où l'assassin de John Lennon motivait son acte par la volonté d'acquérir un peu de la célébrité de sa victime. Certes, je n'étais pas Lex Beatle, et cette femme était plus mignonne que Mark David Chapman. Mais je savais que beaucoup de stalkers, ces individus qui harcèlent les célébrités, étaient psychotiques, et que leur passage à l'acte pouvait être impulsif et violent. Je pris donc ma voix la plus rassurante pour essayer de la raisonner de nouveau. « Écoutez, je pense que vous êtes légèrement perturbé. Ça arrive. On traverse tous une mauvaise passe un jour ou l'autre. » Peut-être que vous avez perdu récemment votre emploi ou bien un proche. Peut-être que votre petite amie vous a quitté. Ou alors vous vous sentez rejeté et pleine de ressentiment. Si tel est le cas, je connais une psychologue qui pourrait vous... Elle interrompit mon laïus en agitant devant mes yeux l'une des ordonnances rédigées par le docteur Sophia Schnabel.
D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est vous qui avez besoin d'un psy, non?
Vous avez fouillé dans mes affaires?
Affirmatif,
répondit-elle en me resservant du café. Son comportement me décontenançait. Qu'étais-je censé faire en pareille situation? Appeler les flics ou un médecin? Au vu de ses paroles, j'étais prêt à parier qu'elle avait des antécédents judiciaires ou psychiatriques. Le plus simple aurait été de la mettre dehors manu militari. Mais si je la touchais, cette peste était capable de prétendre que j'avais voulu abuser d'elle et je ne voulais pas courir ce risque.
Vous n'avez pas passé la nuit chez vous, constatai-je dans un ultime essai.
Sans doute doit-on se faire du souci dans votre famille ou parmi vos amis. Si vous désirez prévenir quelqu'un, vous pouvez utiliser mon téléphone.
Ça, je ne crois pas. D'abord, personne ne s'inquiète pour moi. Ce qui est triste, je veux bien l'admettre. Quant à votre téléphone, on vient juste de vous le couper,
répondit-elle du tac au tac en retournant dans le salon. Je la vis se diriger vers la grande table de travail qui me servait de bureau. De loin, tout sourire, elle exhiba un paquet de factures.
Pas étonnant, remarqua-t-elle. Vous n'avez plus payé votre abonnement depuis des mois.
Ce fut la répartie de trop. Impulsivement, je me précipitai sur elle et la fis basculer pour la faire tomber dans mes bras. Tant pis si j'étais accusé d'agression. Je préférais cela plutôt que de l'entendre une minute de plus. Je la tenais fermement, une main sous ses genoux, l'autre en bas de ses reins. Elle se débattait de toutes ses forces, mais je ne cédais pas et la ramenai sur la terrasse où je la déposai sans ménagement le plus loin possible avant de retourner précipitamment dans le séjour et de refermer la baie vitrée derrière moi. Et voilà. Les bonnes vieilles méthodes, il n'y a que ça de vrai.
Pourquoi m'étais-je infligé cette compagnie importune pendant si longtemps?
Ça n'avait pas été très compliqué de s'en débarrasser finalement. J'avais beau écrire le contraire dans mes romans, parfois, il n'était pas mauvais que la force triomphe des mots. Je regardais la jeune femme, enfermée dehors, avec un sourire satisfait. Elle répondit à ma bonne humeur par un majeur pointé dans ma direction. Enfin seule. J'avais besoin de ma sérénité. À défaut d'anxiolytique, je mis la main sur mon iPod et, à la manière d'un druide préparant une potion calmante, je me concoctai une playlist hétéroclite à base de Miles Davis, de John Coltrane et de Philip Glass. J'enclenchai le baladeur dans ses enceintes et la pièce se remplit des premières notes de Kind of Blue, la plus belle œuvre jazz au monde, le disque qu'appréciaient même ceux qui n'aimaient pas le jazz. Dans la cuisine, je me fis un nouveau café puis je retournai dans le salon en espérant que mon étrange visiteuse aurait disparu de ma terrasse. Ce n'était pas le cas. Visiblement de mauvaise humeur, encore un euphémisme, elle était en train de saccager le service du petit déjeuner. Cafetière, assiette, tasse, plateau en verre, tout ce qui pouvait se briser fut projeté sur les dalles en terre cuite. Puis elle tambourina avec rage contre les panneaux coulissants avant d'y catapulter, de toutes ses forces, une chaise de jardin qui ne fit que rebondir sur le verre sécurisé.
« Je suis Billy !»
hurla-t-elle à plusieurs reprises. Mais ses paroles étaient filtrées par le triple vitrage et je les devinais plus que je ne les entendais. Ce raffut n'allait pas tarder à alerter les voisins et par ricochet, l'équipe de gardiennage de Malibu Colony qui me débarrasserait de la gêneuse. À présent, elle s'était affaissée le long de l'embrasure de la fenêtre. Assise, la tête dans les mains, elle semblait abattue et prostrée. Touchée par sa détresse, je la regardais fixement tout en me rendant compte que ses propos avaient exercé sur moi, sinon une étrange fascination, du moins une réelle interrogation. Elle leva la tête et, entre ses mèches de cheveux dorés,
j'aperçus son regard myosotis passer en quelques minutes de la plus douce à la plus chaotique des expressions. Je me rapprochai lentement et m'assis à mon tour contre la paroi vitrée, mes yeux plantés dans les siens, à la recherche d'une part de vérité, sinon d'une explication. C'est alors que je vis ses paupières tressaillir comme sous l'effet d'une douleur. Je me reculai pour découvrir que sa robe couleur chair était toute maculée de sang. Puis j'aperçus la lame de couteau à pain entre ses mains, et je compris qu'elle s'était auto-mutilée. Je me levai pour lui porter secours, mais cette fois, c'est elle qui avait bloqué la porte en coinçant la poignée extérieure avec la table. « Pourquoi ?» lui demandai-je du regard. Je devinai une pointe de défi dans ses yeux et, pour toute réponse, elle frappa plusieurs fois la vitre avec la paume de sa main gauche qui pissait le sang. Enfin, elle immobilisa sa main lacérée et par transparence, je lus les trois chiffres entaillés dans sa chair. 144. Chapitre 9. Épaule tatou. Inscrits en lettres de sang, les chiffres dansaient devant mes yeux. 144. En temps normal, mon premier réflexe aurait été de composer le 911 pour prévenir les secours. Mais quelque chose me retenait de le faire dans la précipitation. La blessure saignait abondamment, mais elle ne semblait pas fatale. Qui avait-il à comprendre derrière ce geste? Pourquoi cette femme s'était-elle infligée une telle coupure? Parce qu'elle est folle? Soit, mais encore. Parce que je ne l'ai pas cru? Quel lien avait le nombre 144 avec ce qu'elle m'avait raconté? De nouveau, elle frappa violemment la vitre avec sa paume, et je vis que son doigt désignait le livre posé sur la table. Mon roman, l'histoire, les personnages, la fiction, l'évidence s'imposa à moi. Page 144. J'attrapai mon livre et le feuilletai avec empressement jusqu'à atteindre la fameuse page. C'était un début de chapitre qui commençait comme ça. Le lendemain de la première fois où elle avait fait l'amour avec Jack, Billy se rendit dans une boutique de tatouage de Boston. L'aiguille courait sur son épaule, injectant l'encre sous sa peau, gravant par petites touches une inscription en arabesque. Un signe utilisé par les membres d'une ancienne tribu indienne pour qualifier l'essence du sentiment amoureux. Une épigraphe corporelle qu'elle entendait désormais porter comme un viatique pour affronter les douleurs de la vie. Je levai la tête vers ma visiteuse. Elle s'était recroquevillée sur elle-même, le menton posé sur ses jambes repliées. Elle me fixait maintenant d'un œil éteint. Faisais-je fausse route? Y avait-il vraiment quelque chose à comprendre derrière cette mise en scène? Incertain, je me rapprochai de la baie vitrée. Derrière la fenêtre, le regard de la jeune femme s'enflamma soudain. Elle se passa la main dans le cou pour faire glisser la bretelle de sa robe le long de son épaule. Au niveau de son omoplate, j'aperçus un motif tribal que je connaissais bien. Un signe indien utilisé par les Yanomami pour décrire la substance du sentiment amoureux. « Un peu de toi est entré en moi pour toujours et m'a contaminé comme un poison ».